Chapitre 94. À 400 mètres du domicile de David Jordan sur Ingare, le minibus noir du groupe national d'intervention bloque la route étroite. Des policiers lourdement armés délimitent rapidement un périmètre de sécurité avec des rubans de signalisation et installent des planches à clous jusque dans le fossé. Travaillant main dans la main avec Janus Mikkelsen de la CEPO, Magnus Molander dirige l'intervention sur le terrain. C'est un homme blond au regard timide. Sa copine l'a quitté il y a quelques jours seulement. Au matin, elle avait soudain déclaré qu'elle ne pouvait pas vivre avec quelqu'un qui risquait de se faire tuer chaque fois qu'il allait au boulot. Sans laisser aucune place au dialogue, elle avait juste fait ses valises et était partie. En route, Magnus a examiné d'un œil attentif les images satellites de la propriété constituée en grande partie de forêts et de rochers escarpés au bord de la mer. Le groupe d'intervention est composé de 8 policiers équipés pour le combat. Casque, gilet pare-balles avec plaques de céramique, pistolet mitrailleur, pistolet semi-automatique et fusil d'assaut de Heckler et Koch. Leurs lourdes Rangers résonnent sur le bitume de la route déserte. Dans le fossé, de hautes herbes flottent paresseusement au vent. Au signal de Magnus, Janus Mikkelsen et 2 autres tireurs d'élite quittent la route et se déploient autour de la propriété. Le reste du groupe poursuit jusqu'à la clôture qu'ils suivent en silence. Dans les hautes cimes, les oiseaux chantent et gazouillent. Des papillons volaient ici et là au-dessus de quelques fleurs sauvages. Le groupe d'intervention arrive devant l'allée d'accès impeccable. Magnus Molander observe le gravier soigneusement ratissé et le parking vide. 2 villas sombres, réunies par un toit formant une sorte d'abri de voiture, dissimulent le reste du terrain. Il ouvre la grille, fait signe à ses collègues d'avancer et reçoit en même temps un rapport de Janus l'informant que les tireurs d'élite ont dépassé la clôture et sont en train de monter sur le rocher derrière le court de tennis. Magnus indique à son groupe de se déployer par binôme et s'engage lui-même avec Rajmo tout droit entre les 2 bâtiments. Il a l'impression de franchir une brèche profonde percée dans les murailles épaisses d'un château. Il s'approche doucement du bord et découvre un terrain rocheux descendant en pente douce vers la plage. La maison de David Jordan est grande, de couleur brun-noir avec d'énormes baies vitrées et une belle terrasse en angle donnant sur l'eau. En contrebas de la maison se trouve une piscine bâchée et une terrasse dallée équipée de transats blancs. Tout est propre, bien entretenu et silencieux. Apparemment, il n'y a personne. Magnus et Rajmo se tiennent immobiles. Ils observent la maison, examinent en détail les parties vitrées, mais ne détectent aucun mouvement. Un bateau à moteur est amarré au ponton à côté de 2 jet skis suspendus et attachés sur leurs élévateurs. Les tireurs d'élite rapportent qu'ils ont pris position. Magnus transpire sous le lourd gilet pare-balles. Il entend sa propre respiration dans le casque quand il lève le bras et signale à ses hommes d'avancer. Le premier binôme s'approche de la maison des invités et force la porte, tandis que le groupe numéro 2 suit Magnus et Rajmo jusqu'à la maison principale. Accroupis, ils traversent l'espace dégagé. Ils entrent par 2 côtés. Magnus fait sauter la porte d'entrée pendant que le deuxième binôme brise une fenêtre et lance à l'intérieur des grenades assourdissantes. Rajmo retire le panneau de porte et dégage avec le canon de son arme automatique les éclats de bois du chambranle déchiqueté. Puis il court vers les chambres, se baisse devant la première porte et l'ouvre. Magnus le talonne. L'alarme anti-intrusion hurle pendant qu'ils inspectent les pièces, fouillent les penderies et renversent les lits. En sortant de la partie où se trouvent les chambres, ils reçoivent des rapports du premier binôme. Ils ont exploré tout le reste du bâtiment principal sans rien trouver. Magnus et Rajmo traversent un séjour, inspectent tous les coins et recoins et arrivent dans une immense cuisine, inondée d'une lumière aveuglante venue de la mer. Les lunettes de protection de Magnus ont glissé et il les arrache tout en apercevant du coin de l'œil quelqu'un sortir en courant d'une cachette à l'extérieur. Il inspire à fond et tourne son arme vers la baie vitrée. Son doigt repose sur la détente, mais il ne voit plus la personne. Il aperçoit seulement l'alignement de transats blancs. Il se baisse pour être moins exposé. Son cœur bat la chamade. Dehors, les branches des feuillus bougent dans le vent faible. Il essuie la sueur qui coule dans ses yeux. Puis il voit l'individu réapparaître. C'est Rajmo. D'une étrange façon, il est reflété par différentes fenêtres de sorte qu'on pourrait croire qu'il se trouve sur la terrasse alors qu'il est à l'intérieur, en train de contourner la table à manger 10 mètres plus loin. Magnus se redresse et scrute l'extérieur, fait un pas en arrière et voit de nouveau le reflet de son partenaire qui semble se trouver dans le jardin. Il se tourne vers lui et s'entend dire qu'ils vont fouiller la maison encore une fois. Dans la cuisine, un verre de whisky à moitié plein est posé sur le marbre du plan de travail à côté d'un sachet ouvert de Cheetos. Il enlève son gant et touche le verre. Il n'est pas froid. Les éventuels glaçons ont fondu depuis longtemps. Quelqu'un a quitté cette maison précipitamment. Il s'approche de la fenêtre. Le groupe numéro 1 se trouve près du ponton. 2 hommes sont montés à bord du bateau à moteur. Il regarde dans le carré et inspecte les coffres du cockpit. Il ouvre les portes et sort sur la terrasse. Dans un arbre, il aperçoit un renard gonflable que le vent a transporté depuis les abords de la piscine. L'alarme s'arrête enfin et Magnus fait son rapport à la direction de la Hainaut. Il n'y a personne, mais ils vont fouiller la maison encore une fois, lentement et systématiquement. Jonalina sera là dans 15 minutes, dit le commandant en chef. Tant mieux. Il contourne la maison et fait un signe de la main aux tireurs d'élite, bien qu'ils aient l'ordre de garder leur position. Le revêtement synthétique rouge du terrain de tennis est recouvert d'aiguilles de pin marron. Longeant l'arrière du bâtiment principal, il se dit qu'ils vont également examiner la maison destinée aux invités une nouvelle fois. Il doit y avoir un local technique pour la pompe de filtration et la pompe à chaleur de la piscine. Une cachette potentielle. La façade renvoie la chaleur d'été accumulée. Seules quelques fenêtres donnent sur la forêt. Le sol crisse sous ses grosses rangers. L'air exhale des senteurs de résine et de lichen chaud qui lui rappellent son enfance. Des sortes de grosses cages à écrevisses sont suspendues sous le bord du toit à l'arrière de la maison. Il s'apprête à en faire descendre une au moment où le centre de commandement lui donne l'ordre de retourner à l'intérieur et de chercher des agendas ou des documents de voyage dans l'ordinateur de bureau. Au loin, il entend le martèlement d'un pivert. Sa copine se bouchait toujours les oreilles quand elle entendait ce bruit. Elle ne le supportait pas, persuadée que ces oiseaux devaient avoir un mal de crâne épouvantable à force de frapper comme ça. Magnus revient sur ses pas en signalant à Rajmo de le suivre, mais s'arrête en découvrant une trappe dans la façade d'environ 1,50 m de haut. Le loquet est défait. Peut-être une remise à bois, se dit-il, et il sort son couteau. Son collègue recule lorsqu'il glisse la lame dans l'interstice pour ouvrir. Malgré toutes les mises en garde qu'il a reçues, il a quand même du mal à croire que la maison soit piégée. Il ne se passe rien. Avec un sourire, il range son couteau, ouvre grand la trappe et découvre un escalier abrupt qui mène au sous-sol. « Je descends voir », déclare-t-il, et il avance la main et tourne l'interrupteur. On entend bien un clic, mais les ampoules sont grillées. Il installe la lampe tactique sur le rail de son arme et commence à descendre les marches. « C'est quoi cette putain d'odeur ?» dit Rajmo en se penchant en avant vers l'ouverture basse. La puanteur douceâtre s'intensifie au fur et à mesure de leur descente. L'étroit escalier en béton semble mener loin sous le bâtiment. Partout, de grosses araignées s'agitent sur leur toile. Juste en bas de l'escalier, il tombe sur un petit couloir avec 2 portes en métal. Magnus indique à Rajmo de se tenir prêt, puis il ouvre la première d'un coup sec et découvre un local technique avec un système complet de purification d'eau. Rajmo inspecte l'autre pièce et secoue la tête. « Pompe à chaleur, dit-il, et il remonte le col de sa veste sur le nez pour échapper à l'odeur nauséabonde. Luttant contre l'envie de vomir, Magnus laisse la lampe tactique balayer le couloir et aperçoit une mince porte en bois tout au fond. Un son tremblant et aigu s'élève quand il s'en approche, comme une aiguille de machine à coudre qui se coince. Il essaie de l'ouvrir, mais elle est fermée à clé. Rajmo recule d'un pas et donne un puissant coup de pied dans la poignée qui fait sauter tout le mécanisme de la serrure. La porte cède. La puanteur de viande putréfiée les frappe telle une lame de fond. Le son aigu se transforme en un bourdonnement assourdissant lorsque des dizaines de milliers de mouches s'éparpillent. « Oh mon Dieu !» gémit Magnus en tenant sa main libre devant la bouche. L'air est tellement saturé de mouches qui s'envolent en panique que l'éclairage du fusil ne parvient pas à révéler les contours de la pièce. « C'est quoi cette horreur ?» parvient à articuler Rajmo. Les mouches se dissipent, puis s'élève un petit crépitement, comme si quelqu'un laissait courir un bâton sur les barreaux d'une balustrade avant que le silence revienne. Magnus sent ses jambes trembler quand il avance dans l'odeur pestilentielle de la pièce. La lumière tactique vibre sur un mur en béton souillé et dérange les mouches qui se sont posées. Elles s'envolent dans un bourdonnement confus. Rajmo éclaire un établi recouvert de sang noir qui a coulé le long des pieds et éclaboussé les murs jusqu'au plafond. Le mince cône de lumière de Magnus passe sur des corps de lapins éventrés et écartelés qui scintillent de mouches noires. Quelques couteaux aux manches de bois sombres et aux lames usées sont regroupés dans un pot en verre. « Putain, c'est le truc le plus tordu que... » Le crépitement retentit à nouveau. Magnus tourne son arme vers le sol et éclaire une cage. Les viscères d'un grand nombre de bêtes ont été lancés près du mur à côté d'une grille d'écoulement. Une planche en bois ensanglantée et un grattoir à peau sont posés dans une bassine en plastique jaune. Les petits bruits secs viennent de la cage par terre. Un lapin affolé y tourne en rond. Ses petites griffes cliquettent sur le grillage métallique.